Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 11e émission de Star Wars en direct Making of, aujourd'hui consacrée
à la menace fantôme, premier épisode, et nous en sommes à notre 2e émission de radio sur le sujet, donc qui sera consacrée au tournage.
Exactement, mais avant cela, prenons des nouvelles. Comment vas-tu, chère Margot? Covidée, pas covidée?
Eh bien, nous allons bien, nous allons bien. Alors, notre silence des derniers mois s'explique par quelques problèmes de santé de Martin qui n'ont peu à voir avec le Covid. Une petite boule dans le cerveau, mais rassurez-vous, tout va bien.
La force a été puissante.
Oui, oui, toujours aussi secoué, et de retour pour de nouvelles aventures. Mais justement, Martin, il y a une grande nouvelle qu'on aimerait partager avec les personnes qui nous écoutent, puisque durant cette émission consacrée au tournage de La Menace Fantôme, nous allons recevoir un invité surprise.
Et oui, un invité très spécial, puisque par l'intermédiaire de Sébastien Galano, que nous remercions encore aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de pouvoir interroger Monsieur Patrice Giraud. C'est encore le Monsieur Star Wars en France, et directeur du Lucasfilm Magazine du temps de notre fringante jeunesse.
Et nous le remercions d'avoir répondu à nos questions et nous partageons donc le micro aujourd'hui avec Patrice Giraud qui nous rejoindra cependant en fin d'émission, donc restez branchés.
Et oui, pourquoi Patrice Giraud, petite parenthèse, c'est parce que c'est quand même l'un des seuls Français aujourd'hui, si je puis dire, à être allé sur les tournages des 3 épisodes de la prélogie 1, 2, 3. Et donc à chaque épisode du tournage, il nous livrera quelques anecdotes succulentes.
Et oui, si vous faites partie de ces Français qui étaient là mais que nous ne connaissons pas, n'hésitez pas à vous manifester, vous aussi vous pourrez passer au micro de Margot et Martin.
Exactement. Avant de commencer cette émission, remercions nos partenaires.
Et oui, bien sûr, nous remercions Mintinbox.net, Citeclan.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science Fiction.
Es-tu prête à passer en hyperespace?
Je le suis.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Nous sommes le 26 juin 1997 et la société Jack Productions...
Peut-être qu'on disait Jack.
Jack ou Yak Productions démarre le tournage d'un nouveau film. Mais qu'est-ce donc que cette société et de quel film s'agit-il? Eh bien, si vous devinez aisément ce dernier, peut-être est-ce la première fois que vous entendez parler de cette compagnie. Il s'agit en fait d'un nom de code associé au tournage de l'épisode 1, tiré des initiales des 3 enfants de George Lucas.
Eh oui, Jacques, Yak et Zachary. c'est une blague. Donc le tournage est prévu pour durer 65 jours en studio, évidemment, mais aussi dans le monde entier, puisque nous savons que les productions des films Star Wars, vous l'avez vu au cours de nos précédentes émissions, tournent autour du globe. C'est un sacré défi qui attend l'équipe, puisque, on va vous le décrire, mais la première scène tournée, c'est la rencontre entre Sidious et Dark Maul sur Coruscant, tout un symbole qui préfigure la suite de la saga.
Et justement, en parlant de Dark Maul, les scènes avec ce seigneur Sith ajoutent vraiment à l'aspect épique du tournage, puisque l'acteur Ray Park arrive tout en costume et en maquillage. Ça n'est certes pas Dark Vador, mais enfin, l'effet est très réussi.
Oui, je puis dire que c'est pire que Dark Vador, mais ce n'est que mon humble avis. George Lucas lui revient donc sur un plateau de tournage en tant que réalisateur, c'est la première fois depuis 20 ans. Bon, alors, ceci dit, George Lucas restant George Lucas, les impressions qu'il partage en tant que réalisateur restent très pragmatiques et laconiques. Et d'ailleurs, Lucas affirme dans le livre Making of de Laurent Bouzereau et Jodie Duncan, qui a servi à notre bibliographie, que finalement, être réalisateur, c'est presque comme un jour normal.
Oui, comme pour nous tous. C'est un job, voilà tout. C'est quelque chose que l'on n'a pas évoqué durant l'épisode précédent, mais contrairement aux derniers épisodes de Star Wars, notamment les 5 et le 6, il semble assez évident que George Lucas sera le réalisateur de l'épisode 1, ce qui n'était pas forcément le cas au début, puisque le poste fut d'abord un temps proposé à Ron Howard, qui réalisera Solo plus tard, et qui joua toutefois un rôle visiblement important pour convaincre Lucas de réaliser lui-même le film.
D'autant qu'on s'en rappelle bien, Lucas était quand même, même s'il n'était pas réalisateur, omniprésent sur les épisodes 5 et 6.
Exactement.
Donc alors que s'ouvre une nouvelle trilogie qui implique une nouveauté totale, nouvelle histoire, nouvel univers, mais aussi nouvelle technologie, eh ben il semble plus pratique à tout le monde que Lucas soit investi de ce rôle.
De toute évidence. Une journée type commence à se mettre en place. Rick McCallum, le producteur, se rend au studio 2 heures avant Lucas pour faire le point avec les chefs de département pour la journée à venir. Et on s'étonne même que Lucas ait confié ce rôle à quelqu'un d'autre. Le tournage a lieu, puis de nouveau réunion bilan à la fin de la journée, afin de faire le point sur la journée à venir.
Une collaboration clé, bien sûr, c'est celle qui est établie entre le réalisateur et son directeur de la photographie. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Monsieur David Tattersall, qui a notamment travaillé sur La Ligne Verte avec Michael Clarke Duncan et Tom Hanks. Donc, comme beaucoup de membres de l'équipe, il a aussi travaillé sur Les Aventures du jeune Indiana Jones sur plus de 30 épisodes.
Le réseau, encore une fois, et le toujours. La série joue d'ailleurs toujours un rôle prépondérant dans l'organisation de l'équipe de tournage au quotidien, puisque c'est vraiment celle qui a été dupliquée pour cet épisode. C'est tout un langage, un rythme finalement, et une manière de travailler qui se sont construits sur ces années de tournage de la série et qui aujourd'hui, en tout cas au moment du tournage, font gagner un temps précieux.
Oui, parce que vous vous souvenez sans doute de nos émissions des épisodes 4, 5 et 6. C'est peut-être le rythme qui manquait à l'organisation des précédents tournages.
Effectivement.
Donc, Monsieur Tattersall, directeur de la photographie, est recruté 5 semaines avant le début du tournage.
Ce qui est peu quand même.
Oui, ce qui est peu et qui laisse finalement peu de temps. Mais Monsieur Tattersall s'en sort bien pour comprendre l'atmosphère, la couleur aussi que Lucas souhaite donner à son film. Donc, sur le tournage, les témoignages nous disent qu'il est impossible de dissocier David Tattersall de ce qu'il décrit lui-même comme une bible et qui correspond en fait à son immense classeur de storyboard et on en compte 5000 au total de petites cases.
Cette bible serait pour beaucoup d'entre nous
le Graal.
Aussi une bible.
Pour rester dans Indiana Jones et les références bibliques.
Tout à fait. Pour tourner un film Star Wars, en tout cas, il faut aimer la couleur bleue. Ouverte, puisque la majorité des plans sont tournés avec ces immenses arrière-plans de la même couleur, afin qu'ils soient remplacés en post-production par des images de synthèse, de décor, ce qui ne posera pas mal de soucis et certains acteurs, nous aurons l'occasion d'y revenir.
Et c'est pas non plus sans poser quelques difficultés à Monsieur Tattersall, puisque les fonds bleus et verts nécessitent un éclairage particulier. Pourquoi ? Eh bien pour ne pas refléter la couleur sur les vrais décors ou sur les acteurs. Sans compter que ces fonds sont particulièrement encombrants, puisqu'ils sont immenses. 60 mètres de haut, parfois des centaines de mètres pour les grandes scènes, notamment celle du hangar de la ville de Theed.
Sur Naboo, exactement. Une compagnie anglaise propose ses services avec une toute nouvelle lampe, avec puissance 2 fois supérieure à ce qui peut se faire sur le marché. Donc, on décide de faire un éclairage en haut, du fond et en bas, et cette couleur est neutralisée, c'est donc très très simple.
Ah, bien sûr, on s'en doute. Cette nouvelle configuration impose la présence accrue de la société ILM, qu'on ne vous présente plus, par l'intermédiaire du superviseur des effets sociaux, John Knoll, qu'on ne vous présente plus non plus.
Les effets spéciaux,
Oh, pardon, c'est la sociologue en moi qui se réveille.
C'est la sociologue qui parle.
Des effets spéciaux, mais qui sans doute s'accompagne d'effets sociaux très importants.
Puisque
d'ailleurs, la présence de John Knoll aux effets spéciaux et sociaux permet une bien meilleure communication et la résolution rapide de problèmes, de conflits, de stress. Et ça nous permet évidemment d'économiser du temps et de le gagner pour la post-production.
Et un peu d'argent également. Le rythme du tournage étant intensif, on compte quand même 36 plans par jour que l'on termine soit à 17h, soit à 23h en fonction de l'organisation. Et il semble toutefois difficile d'éclairer de manière méticuleuse toutes les scènes et c'est peut-être ce qu'on peut voir aussi, cette couleur un peu uniforme sur tout le film.
Alors l'une des autres innovations de ce tournage, au-delà de l'éclairage dont on vous a parlé, et une innovation qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, c'est la décision de remplacer la pellicule par la cassette numérique haute définition. Alors là encore, hein, la raison est principalement économique. On voit le budget et la part importante d'effets spéciaux, décidément, qui vont demander beaucoup de fonds. Et il est ensuite prévu de repasser sur la pellicule une fois que le montage sera terminé et donc au moment de la distribution du film.
Ça fait une sacrée organisation. En tout cas, tout ne sera pas in fine filmé en numérique pour cet épisode, la technologie n'étant pas encore à 100% exploitable sur un film entier. On aura vraiment l'occasion d'y revenir plus tard, sur deux prochains épisodes. Mm-hmm. Il n'empêche, l'épisode 1 comporte d'ores et déjà une douzaine de plans en numérique et les résultats sont estimés comme étant sensationnels. McCallum, le producteur, prédit alors que c'est le dernier film Star Wars tourné en pellicule. Les jalons sont posés pour les deux prochains épisodes, un peu moins pour les trois qui vont suivre.
Cette monstrueuse organisation ne serait toutefois pas possible sans l'assistant réalisateur qui est Chris Newman. Et cette personne assure le lien direct entre George Lucas et toute l'équipe. C'est le maître des horloges et le grand facilitateur. Là encore, qui s'accompagne d'effets sociaux importants. Il est donc investi, ce monsieur Newman, d'un sacré rôle dans la production de Star Wars. Il décrit d'ailleurs cette production comme une partie d'échec.
Une des scènes clés tournées en studio concerne le Sénat galactique de Coruscant. Bien que la majorité de celui-ci est réalisée en post-production, la scène est très difficile à tourner techniquement, ainsi que pour les acteurs. Cela fait un peu partie du métier, hein, maintenant, être capable d'imaginer ce qui est en face de nous, avec qui interagir. Mais à l'époque, cela semblait un peu moins naturel. Aucun acteur de Star Wars n'avait joué devant des fonds bleus. Une grande découverte pour tout le monde.
Des solutions annexes sont donc trouvées, les figurants sont placés à des endroits stratégiques, afin de permettre aux acteurs de regarder dans la bonne direction. Un exemple de solution. On peut aussi remplacer ces acteurs par des objets, voire des fruits. Nous vous apprenons ainsi qu'une pomme a fait office de repère pour les acteurs.
C'était pour Valorum, certainement. Dans ce type de scène, la présence d'ILM est de nouveau bénéfique, John Knoll s'assurant que l'éclairage soit optimal pour l'insertion des personnages animés en post-production, d'où la présence également de moitié de personnages sur le tournage, comme Jar Jar ou Sebulba, rapidement insérés lors de la création du plan pour vérifier que la lumière soit la bonne.
Le 2 juillet 1997, c'est une date particulière sur le tournage de l'épisode 1, puisqu'il correspond à l'entrée en scène de nombreux acteurs principaux, Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd et Ahmed Best.
Rendez-vous fixé à 7h du matin, beaucoup trop tôt pour toi et moi, pour le maquillage, la coiffure et la mise en place des costumes. À 9h, les acteurs arrivent sur le plateau et la scène du jour, c'est l'arrivée sur Coruscant et l'accueil par le chancelier Valorum, de quoi vraiment impressionner les nouveaux venus et rassembler un peu tout le monde.
Alors, quelques jours plus tard, on est toujours en juillet 1997, on filme la scène du dîner chez Shmi Skywalker. Alors, le timing est parfait puisque les acteurs ont eu le temps de se connaître un peu mieux et ils sont plus à l'aise pour restituer un petit peu la chaleur et l'ambiance voulue par le réalisateur. Alors ça, ce n'est pas la méthode Lucas, hein, de se faire des amis sur un tournage, n'est-ce pas?
Non, tout à fait. Hein, le réalisateur le dit lui-même dans le livre, hein, donc de Bouzerou et Duncan. Sa préférence va à une relation professionnelle plutôt que personnelle. Il pense également, chose intéressante, que l'acteur n'a pas besoin de tout connaître de son personnage pour jouer une scène, seulement de suffisamment d'informations pour lui donner la bonne dynamique. Ce qui peut se discuter. Hein.
Oui, ce qui peut se discuter. Il cite d'ailleurs l'exemple de Mark Hamill qui n'a su qu'au dernier moment que Dark Vador était le père du personnage qu'il interprète. Bon.
Souvenez-vous, cette anecdote que nous avions racontée.
Tout à fait, tout à fait. On se souvient aussi que David Prowse n'avait pas été mis au courant, l'acteur qui joue Dark Vador, parce qu'il était le
spoiler.
Oui, c'est ça, le grand professionnel du divulgachage. Donc bref, voilà, c'est ma foi une théorie assez intéressante.
Oui, même si Mark Hamill n'est pas l'exemple du jeu d'acteur.
C'est un débat que nous ne lancerons pas ici.
Et pourquoi pas? 4 semaines après le début du tournage, le rythme est respecté et l'équipe du film se déplace vers le Regia Palace de Caserta en Italie. Moi, je l'ai appris en découvrant que effectivement c'était un beau palais d'Italie. Plusieurs jours de tournage sont prévus pour filmer l'intérieur du palais de Fide. Natalie Portman s'en rappellera certainement puisque ces quelques jours lui suffisent à provoquer une belle entorse à la cheville qui décalera son arrivée en Tunisie. Oui.
2 semaines sont également effectivement prévues en Afrique du Nord pour le tournage des scènes extérieures de Mosespa. La logistique pour déplacer hommes, femmes et matériel est immense, vous vous en doutez, puisqu'elle inclut caméras, décors, accessoires, costumes et même quelques pod racers pour des repérages sur la course de modules.
C'est clair, toute une immense organisation. Une solution est trouvée alors que Rick McCallum découvre une annonce dans le journal local pour proposer les services d'un avion de fret russe. L'idée est validée, nous sommes loin de la guerre froide, et on se sert donc de ce type d'avion pour déplacer The Village, comme l'appelle fort justement le producteur.
Et donc le bureau de production est fixé, lui, à l'hôtel Palm Beach de Tozer, tout près du désert du Sahara. Nous sommes encore en Tunisie, il me semble, à Tozer. Les décors doivent être rapidement reconstruits avec cadres en bois, treillis métalliques et mousse sculptée. Toute une expertise fort utile pour avancer rapidement dans un environnement qui se trouve une nouvelle fois hostile.
Et pourquoi hostile? Justement parce que la chaleur en cette fin juillet 1997 est accablante. La température atteint son maximum, en tout cas atteint parfois 55 degrés, définitivement trop pour nos jeunes peaux fragiles, n'est-ce pas? Une pensée émue pour les acteurs jouant des aliens qui ont particulièrement souffert, ainsi que ceux étant maquillés debout depuis 6 heures du matin.
Mon Dieu.
C'est ça la passion.
Alors d'ailleurs, c'est une nouvelle fois dans une logique économique, aucun décor n'a de toit et des fonds bleus de toute taille accompagnent l'équipe de production. Vous comprenez maintenant l'avion de fret russe, au cas où Lucas souhaite apporter quelques modifications ou ajouter de nouveaux éléments.
Oui, c'est sûr que ça doit être un peu particulier. Le tournage tunisien est quand même constitué de canicules, de masques en latex dégoulinant, d'eau froide à tire-larigot et d'air conditionné.
Et oui, c'est les Américains quand même.
Et toute l'équipe du film concède volontiers que ce faisait là la pire partie du tournage de l'épisode 1, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Et oui, parce qu'un soir, alors que l'équipe de tournage dîne, Lucas aperçoit au loin de gros nuages noirs et quelques éclairs. Flashback direct sur le tournage du tout premier épisode, le 4, où un terrible orage, rappelez-vous, avait menacé la production tout entière. Et à ce moment-là, Lucas aurait dit « J'ai un mauvais pressentiment
». Exactement. À minuit, le lieu du tournage, ça n'a pas loupé, est au milieu d'une terrible tempête. Tous les décors sont menacés, et comme si la situation n'était pas assez folle, le producteur, accompagné de David Brown, prennent un 4x4 afin de constater les dégâts en direct. La voiture manque de se retourner 4 fois et fait finalement demi-tour devant la violence de la tempête. À 3h du matin, George Lucas reçoit un terrible appel. Les décors sont détruits et le lieu du tournage est proprement inaccessible.
Et à leur retour sur les lieux, la production constate l'ampleur des dégâts. Tout est détruit ou sur le point de l'être. Costumes, tentes, podracers. Seul un décor est maintenu, c'est la rampe d'atterrissage du vaisseau de la reine.
C'est bien.
On décide donc de modifier le planning et de filmer les scènes en lien avec cet élément en attendant la reconstruction.
Ouais, l'état de désespoir a dû être assez terrible.
Et oui, et ce d'autant plus, Martin.
Que pendant ce tournage, merci, on tente de retrouver les 1400 costumes enfouis dans le sable pour les nettoyer. De nouveaux équipements doivent être aménagés. Même l'armée tunisienne arrive en renfort pour construire à nouveau les rues de Mosespa. On en avait cherché des costumes quand on était en Tunisie, mais nous n'en avons pas trouvé.
Non, c'est vrai, on n'a même pas une pauvre petite paire de lunettes, mais rien n'a été égaré. Néanmoins, le bilan est inespéré, comme quoi l'adversité ne s'accompagne pas toujours de tragiques conséquences. Aucun jour de tournage n'est perdu. Alors bon, ça donne quand même tout de même lieu à des scènes cocasses. Nathalie Portman qui s'illustre dans l'épisode 1 comme le Anthony Daniels du tournage de l'épisode 4 se retrouve pendant un jour totalement bloquée dans un décor. Et oui, puisque ses chaussures sont coincées dans une peinture toute neuve.
Aïe, aïe, aïe.
Et que ce jour reste dans vos mémoires comme celui où Nathalie Portman a failli perdre ses pieds.
Pensez pour Anthony Daniel, ça lui serait clairement arrivé, sauf que lui n'aurait même pas pu sortir du costume entier.
C'est sûr.
Départ de Tunisie, quand même, donc, et retour au studio Leaves Den pour filmer le reste des scènes d'intérieur. Les anciens décors sont remplacés par de nouveaux, notamment l'intérieur du vaisseau de la reine, la chambre du conseil Jedi, ainsi que la grande scène de bataille entre Obi-Wan, Qui-Gon et Dark Maul.
Une scène retient particulièrement l'attention, c'est celle du conseil Jedi avec le grand retour de Maître Yoda. Frank Oz, comme évoqué évoqué d'ailleurs lors de notre précédent épisode, est bel et bien de retour pour donner sa voix et animer la marionnette de Yoda. Il n'est toutefois pas le seul dans cette manipulation, puisque Kathy Smee, Don Austin et David Greenaway lui prêtent main forte.
Et oui, qui sera remplacée un peu plus tard. Hein. Cette marionnette est d'abord présente dans tout le film, si ce n'est un seul plan qui est réalisé en effets spéciaux et qui voit le grand Jedi marcher. Et comme vous le savez aujourd'hui, cette marionnette est entièrement remplacée par des effets spéciaux.
Et oui, l'une des dernières scènes à être tournée, c'est le grand combat final au sabre laser. Un mois au total de tournage pour cette scène. Du fait de sa chorégraphie très complexe, les câbles sont abandonnés au profit du nitrogène pour propulser les cascadeurs dans les airs, comme cela sera nécessaire dans le film.
Comme quoi, effectivement, la technologie prend le pas. Et donc, le 30 septembre 1997, le tournage prend fin.
Et oui.
Sans aucun jour de retard. Le budget est respecté. Bref, un tournage qui s'est, somme toute, bien passé.
Et maintenant, pour vous raconter l'envers du décor et les coulisses de ce tournage, nous vous laissons avec Patrice Giraud.
Donc, bonjour à tous, bienvenue sur Star Wars en direct. J'ai l'immense privilège aujourd'hui d'être avec monsieur Patrice Giraud. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Comme on venait de le dire, vous êtes quand même un témoin du tournage finalement de la prélogie, épisode 1, 2, 3. Et donc, vous avez toute votre place dans notre podcast. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir votre ressenti, vos souvenirs de tournage finalement, pour partager ça avec nos auditeurs. Et j'ai une première. Alors, peut-être vous présenter pour ceux qui. J'en doute, mais vous connaissez pas encore peut-être parmi les auditeurs.
Donc voilà, Patrice Giraud, j'arrive à une moitié de pas de siècle, si. je suis tombé dans Star Wars à 10 ans, hein, j'ai vu Star Wars en octobre 77 sur les Champs-Élysées avec mon grand frère. Je savais pas ce que j'allais voir et là je suis passé en vitesse lumière.
Ah, c'est ça.
Et c'est vrai que pour l'époque, votre génération, toutes les générations après ne peuvent pas comprendre, mais c'était un film tellement révolutionnaire. Voilà, c'est comme si aujourd'hui vous aviez un cinéma pépère sans effets spéciaux et tout d'un coup on vous met Avatar dans la tête et voilà. Voilà, vous passez de Jean Dujardin à tout d'un coup un film hallucinant. Et ça a été le grand choc de soir. C'est au-delà que c'était un très bon film. C'était en plus tellement révolutionnaire à tellement de points de vue qu'à 10 ans, c'est sûr que bon, on est tombé dedans. Voilà.
Et comment est-ce que vous, Patrice Giraud, vous vous retrouvez finalement sur le tournage du premier épisode alors de la Menace Fantôme ?
Alors, moi, quand j'ai créé le magazine à l'époque, c'est déjà merveilleux de pouvoir le faire en France. À l'époque, il y avait très peu de licenciés en France. On était 6 sociétés, c'est tout. Hein. Moi, j'étais le tout petit, mais j'étais le passionné. J'avais beaucoup de respect des gens de Lucasfilm parce qu'ils voyaient que j'étais passionné, que donc je défendais leur image avec passion et que j'étais pas un industriel qui était juste là pour prendre Star Wars, Indiana Jones et faire du pognon. D'ailleurs, j'ai réinvesti énormément d'argent dans le magazine pour que ça soit de qualité pour les fans et tout, ce que je savais que la qualité payait de toute façon. Donc, voilà, j'étais connu comme le loup blanc chez Lucasfilm. Hein. Et puis, voilà. Et puis, il y avait quoi à l'époque? Il y avait le magazine américain. Il y avait moi. Ils venaient juste de créer le magazine d'Angleterre. Même l'Angleterre est arrivée un an et demi ou deux ans après la France. Et en fait, mon contact à l'époque, c'était Alan Coach, que j'avais rencontré bizarrement ma première visite au ranch en 88. Il était au département THX. Il m'avait fait faire la visite du ranch à l'époque. Il m'appelle, il me dit « Patrice, j'ai... » Il m'appelait pas souvent à l'époque, on échangeait beaucoup par fax. Il n'y avait pas encore Internet. Mais le fax était vachement bien, c'était mieux que le TEDx. Et le jour, il m'appelle, il me dit « Patrice, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. » Je fais « Merde, il m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui va pas ?» Je dis « Commence par la mauvaise nouvelle. » Il me fait « La mauvaise nouvelle, c'est que tu vas sur le tournage de Star Wars. » Ah ouais, ça c'est la mauvaise nouvelle. Et une fois de plus, il faut comprendre qu'à l'époque, moi j'étais un licencié, je faisais ça avec passion, mais je voyais pas pourquoi j'allais sur le tournage, puisque je savais que ça allait être très secret et que j'étais quelqu'un qui prenait une licence pour faire un magazine, voilà. Et il me fait « Tu viens sur le tournage, et puis il faut que tu envoies tout de suite tes mensurations, un tel numéro à Londres, on va te fabriquer un costume, tu vas être dans le film, tu vas être figurant. » Là, effectivement, je touchais plus terre et j'étais super content parce que là, déjà on parle de 97, donc ça fait déjà 2 ans que je faisais le magazine, mais littéralement, moi, mon projet, il a commencé en 87 dans ma tête, avec le lancement du magazine américain, et depuis 87, j'ai contacté, je suis allé chez Lucasfilm en 88, et après, je me suis battu pendant des années pour essayer des connaissances, mais j'avais pas d'argent, j'avais pas de société, j'avais jamais fait d'édition, j'étais encore en école de commerce, enfin bon, ça a été un peu un combat de longue haleine, mais ça m'a servi de leçon, et d'ailleurs, je le donne à tous les jeunes, Il faut être persévérant dans la rue. Parce qu'effectivement, on m'a foutu, en fait, par les gens qui géraient les droits à l'époque en France, c'était VIP, tenu par un monsieur qui est très, très connu dans mon essence. En fait, c'était le monsieur qui a créé pratiquement la licence en France avec l'ORTF, qui a fait les premières licences avec Nounours, Bonne Nuit les Petits, enfin, Chapi Chapeau. Enfin, il était, avant TF1, c'était le monsieur qui vendait Zorro, tout ça, c'est tout, il est passé par lui. Et c'est lui qui avait les droits depuis 77 de Star Wars. Et bah, le mec, voilà, il m'a vu, il m'a regardé, un jeune, pas d'argent, truc, et lui, il s'est dit, bon, je crois pas en lui, quoi. Alors que les Américains, c'était tout l'inverse. La fille de chez Lucasfilm, l'Israélienne, elle, à l'américaine, elle croyait en moi. Et d'ailleurs, elle m'a battu chez Lucasfilm parce que tout le monde avait des doutes chez Lucasfilm. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. On va pas lui confier le droit. Il a fait. Je l'ai rencontré. Je crois en lui. Les maquettes qu'il me fait, voilà. C'est. Il a le. Voilà. Elle a. Comme George Lucas a été. C'est un peu présomptueux, mais c'est un peu comme George Lucas a été jugé par Alan Ladd en disant. Je comprends rien sans Star Wars, mais je crois en George Lucas. Elle, c'était pareil. C'est, je crois, ouais, en Patrice Giraud, je crois dans le jeune garçon que j'ai rencontré qui est hyper motivé. Donc, et qui avait quand même, j'avais tout un plan, j'avais construit tout un plan pour les rassurer. Et voilà, donc aller sur le tournage, c'était quand même, voilà, c'était sympa de leur part. Mais une fois de plus, à l'époque, le licensing, c'était 4 personnes. C'était Lucy Wilson, Howard Hoffman, Louis Raleigh, et j'ai oublié le nom du quatrième, la quatrième personne, voilà, mais ouais. C'était un tout petit, et moi, j'étais le magazine français, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'étais hyper important. J'étais le relais avec les fans français.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Et ils n'avaient que la France et l'Angleterre et les États-Unis. Et donc, j'étais une partie importante de la com chez eux. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait beaucoup de choses. Je pouvais aller Orange, voir les... Et d'ailleurs, dès qu'Internet s'est lancé, avec le premier trailer, je ne sais plus, peut-être 97, 98, et 99, ça a commencé à être pire, on a vu le changement.
Ouais.
On a vu que Lucasfilm, c'est bon, on a Internet. Et là, on a commencé à voir les photos après tout le monde. Après, bon. Voilà.
Donc, si on revient à 97.
Et 97, voilà.
Et on vous dit, c'est parti.
Quoi. Donc voilà, donc, je vais sur le tournage. On me fait mes essayages avec mes petits costumes. Je me retrouve avec le fils de Mark Hamill, les enfants de Coppola. Enfin,
Lucas. Donc c'était à Londres, alors, du coup,
hein. C'était au nord de Londres, au studio Leavesden.
C'est ça, voilà.
Qui avait servi qu'une seule fois pour le cinéma, pour GoldenEye de James Bond, qui était le premier film à être utilisé là-bas, puisqu'avant, c'était une usine pour les moteurs Rolls-Royce d'avion. Voilà.
Ok. Donc, vous avez payé l'avion, vous avez dit hop, rendez-vous.
Non, il n'a rien, Georges ne paye rien du tout.
Ah.
J'étais déjà invité sur le tournage.
C'est déjà pas mal, ouais.
C'était déjà pas mal. Non, non. Donc, j'ai fait des interviews pour le magazine de tous les chefs de département. Et puis, je me rappelle, je crois que les deux premiers jours, de toute façon, pour dire tellement c'était énorme, on allait de décor en décor. Alors, c'était un studio gigantesque, des hangars à perte de vue, et on a marché, on allait au studio plateau extérieur où il y avait Naboo, la place de Naboo qui était construite. C'était énorme, énorme, énormissime. Voilà, et après on a fait les interviews, et après on a fait le tournage de la séquence finale du film, mais on devait la faire et on l'a pas fait parce que le site en extérieur, et tout d'un coup il a pas fait très beau, donc on est revenu en France, et on devait tourner la semaine d'après.
Ah ouais.
Ouais. Alors, nous, ça va, on a le Rostar, donc ça va, mais
oui.
c'est le fameux week-end où Lady Di s'est tuée à Paris.
Ah, bah,
donc la semaine d'après, on est retourné à Londres. C'est là où j'ai rencontré la première fois Jeremy Bullock, Boba Fett, qui était venu sur le tournage, invité par Lucasfilm, et qui parle français. Il fait « Ah, vous êtes français !» On a parlé toute l'après-midi sur la place de Cid en français, qui était super sympa. Et on a parlé de Lady Di, bien sûr. Et on est reparti le samedi matin, justement. Et le samedi matin, c'était l'enterrement de Lady Di. Et il fallait traverser Londres, et Londres était complètement bloqué. Le film, on ne va jamais réussir. On était à l'hôtel Sherlock Holmes, il fallait aller à Waterloo, là. Je me suis dit, putain, on ne va pas arriver à la gare. Et voilà, c'est pour ça que je m'en rappelle. Lady Di, je m'en souviens même, parce que c'était vraiment été au cœur de l'action, là.
Donc, si je comprends bien, il y a eu une première, il y a eu quelques jours au début, plutôt pour la partie de promotion, vous avez fait des interviews.
Initialement, on devait tout faire là, mais il y a eu un problème, je sais plus, technique ou de temps, je crois, parce que c'était en extérieur, toute la séquence finale, ils avaient construit, là, il y a une piste d'avion sur le gazon, ils avaient construit un énorme décor en extérieur. Et voilà, donc on est revenu, donc on a tout fait la première semaine, on a assisté au tournage, on a vu Georges travailler, littéralement, assis derrière, on était assis. Georges Lucas était assis devant moi, j'étais debout derrière, on pouvait rester là, on le regardait, travailler.
Ça paraît un peu impossible aujourd'hui, ces conditions.
Mais en tout cas, on l'a fait sur les trois films. Et notamment, à chaque fois, il nous a, en plus, reçu pour l'interviewer, on mangeait avec lui. Alors moi, je l'avais déjà croisé deux fois, juste avant. Ma première fois, c'est bon, je l'ai croisé parce que j'étais à l'avant-première à Londres de... l'avant-première de Indiana Jones, c'est la dernière croisade à Londres. Donc, j'avais pu le voir de loin. C'est la première fois que je l'ai vu. J'étais très impressionné.
Ah oui. On comprend.
Et je l'ai revu une seconde fois je crois que c'est 93 ou 94. Il est venu à Paris et j'avais réussi à me faire inviter à ce truc de presse de l'inauguration d'Indiana Jones et le Temple du Péril à Paris. Et donc j'ai vu George Lucas avec Carlos, j'ai vu George Lucas avec Claude Lelouch et j'ai vu George Lucas attablé avec Dick Rivers. Et c'est là où il a rencontré la fille de Dick Rivers et qu'il a sorti avec elle pendant de nombreuses années.
Ah bah dis donc, je ne savais pas cette année.
Voilà, ouais. Oui, parce qu'après, j'ai recroisé à Vorias, quand je faisais Starfix, Laurent Boyer. Il me fait « Ah ouais, je connais Georges Lucas, j'ai mangé avec lui chez Dick Rivers dans le sud de la France. » Je fais « Quoi ?» Oui, bah oui, il sort avec la fille de Dick Rivers depuis des années. Je suis « Merde !»
D'accord, voilà. Ok. Et donc du coup... Ce qui m'intéresse, c'est avoir votre ressenti, quoi. Vous débarquez dans ces énormes studios, soit pour la promo ou pour le tournage, ça peut être un sentiment incroyable. Quels sont les souvenirs que vous avez?
Alors,
finalement,
pour être allé aussi sur d'autres tournages de cinéma et des trucs français plus simples, ou des gros tournages américains. Là, je suis allé sur le film de Joe Johnson de Disney il y a 2 ans, Casse-Noisette et les 4 Royaumes.
D'accord.
Joe m'a invité. Où là, on est vraiment dans le truc hollywoodien. Lucasfilm, il y a quand même, il y avait de l'argent, c'était énorme, mais on sortait une sente. On essaye de faire des choses avec. On voyait que le budget était quand même hyper contrôlé. Hollywood, il n'y a pas de contrôle, il y a des syndicats, il faut 3 voitures pour 2 acteurs. Enfin voilà, c'est pour ça qu'un tournage américain, en fait, même amené en France, va coûter cher parce que les normes syndicales obligent à certains nombres de trucs qui coûtent très cher. Là, chez Lucasfilm, on n'est pas Hollywood. Mon argent, pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, on sent qu'il y avait à la fois... c'était énorme, mais on sentait que c'était quand même fait d'une manière indépendante. Et puis, voilà, c'était le tournage du nouveau Star Wars depuis 82, 81 même. Et donc, bon, mais comme dans tous les Star Wars que j'ai vu après, une sorte de fierté de travailler sur Star Wars. Voilà. Parce que Star Wars avait marqué une génération 20 ans avant. Il y avait la ressortie d'édition spéciale qui a été hyper phénoménale à l'époque. Alors, on s'y attendait pas. Donc, on sentait que il avait passé le stade d'au-delà du film. C'était de rentrer dans la culture populaire mondiale. Donc, les mecs étaient hyper fiers dessus. Voilà. Et on a interviewé tous les chefs de département. Nick Gunman au maquillage, le chef de la déco. Ils étaient tous super sympathiques, super fiers de faire ça. Et,
Question peut-être un peu difficile, mais quel est le tournage que vous avez le plus apprécié?
Oh, je crois que c'est l'épisode 1. Parce que l'épisode 1, bon, déjà, comme je disais, ce qui est impressionnant, c'était l'ampleur du studio. Et puis, on s'attendait, je sais pas, moi, quand j'allais, on allait sur le terrain, on n'avait pratiquement rien vu. Donc, on s'attendait à voir quoi? Étoiles noires, Tatooine, des Stormtroopers. Et on arrive à Londres. On voit un décor de l'Italie de la Renaissance, bon, avec des boutons chromés, bon. On voit la maison d'Anakin, bon, en plateau, bon, c'est Tatooine, d'accord, bon, avec un peu de sable au sol, d'accord. Des vaisseaux avec un design très étrange, très ultra art nouveau, quoi. Et puis, on arrive sur ce décor avec les vaisseaux jaune poussin chromés. Et nous, même nos costumes, moi, j'avais l'impression de ressembler à Jean Marais dans Le Capitan et pas à Luke Skywalker. Il y avait un vrai décalage. On ne comprenait pas, quoi. On arrive où, là? Moi, je trouve aujourd'hui... Alors, je sais que j'ai même un copain qui n'aime pas du tout les prequels pour le design, mais moi, je trouve que ce premier film d'épisode 1 est hyper ambitieux. Hyper ambitieux parce que, justement, il décide, contrairement, par exemple, à Disney sur les suites des films, ils refont le même design que la trilogie originale.
Oui, tout à fait.
Je pense que, genre, j'aurais fait les 3 films d'après, qui se passent 30 ans après, et on aurait eu encore un autre design. Il aurait créé des nouveaux environnements. Là, on nous redonne... Ce que le public a envie de voir. Georges, il a décidé de ne pas donner au public, il a dit, et je trouve ça audacieux, et personnellement, j'adore les vaisseaux jaune poussin, les Naboo Fighters sont d'une beauté rarissime, le vaisseau de la reine tout chromé, c'était hyper osé. Et quelque part, alors je sais que ça va sûrement vexer des fans, mais épisode 1 était un film ambitieux. Alors peut-être pas réussi, parce que le rythme du tout premier Star Wars est incroyable, épisode 1 a un problème de montage... Il a voulu faire trop de choses. Il y a Jar Jar qui est à la fois une magnifique création, mais l'exploitation n'est pas réussie. Mais je trouve que le film a une volonté, cette volonté politique, qui est pas bien exploitée, mais cette volonté de dire, bon, tiens, les prequels, je vais en faire un truc politique, mais Il aurait dû le faire comme Les Hommes du Président. Il est tombé dans le piège du Sénat, qui est très bien fait. Mais quelque part, tous les films sur la politique, on ne voit jamais la politique. C'est ce qui se passe derrière, les magouilles, c'est ça qu'il fallait voir. Et parler de fédération du commerce, tout ça, ça y a un truc qui a fait peur au public là-dedans, que ça ne les intéressait pas. Mais je pense que c'était des films très durs à écrire, en fait. Très, très compliqués. Bon, il n'est pas arrivé au bout du truc parfait. Mais ce premier film est hyper ambitieux et je trouve que le 2 et le 3 ne le sont pas. Donc, je pense que le film a très bien marché, hein, il fait pratiquement 900 millions de dollars, depuis il a dépassé le milliard de dollars, mais je pense que la réaction du public dans les médias, les critiques, même les critiques du Time Magazine le lendemain de la sortie, tout ça, il s'est pris ça en pleine gueule, le père Lucas. Alors qu'effectivement, moi j'avais une copine qui était chez LucasArts qui me disait, 6 mois avant la sortie du film, ah Patrice, il y a ce personnage qui est génial, il parle comme un Cubain, il me parlait de Jajar, voilà. Tout le monde y croyait. Et le film sort, il y a eu une grosse déception. Et Georges l'a pris en pleine face. Et en gros, il a dû se dire, OK, et Lucas, c'est quelqu'un de très pragmatique. $1, c'est $1. Et là, il s'est dit, si je continue comme ça, si le 2 est dans la même direction, le 2, il n'y aura peut-être pas de 3. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a eu peur.
Ouais.
Et au lieu d'avoir finalement une trilogie hyper ambitieuse, je pense que son élan a été coupé à la fin du 1. Et que le 2, dès le 2, on rentre un peu dans le moule, on nous ramène Django Fett, on nous ramène des designs de la trilogie, voilà. Ouais. Il essaye de redonner aux fans, les gars, vous inquiétez pas, je vous ramène dans l'univers. Ouais. Et je pense que ce n'était pas son intention de base. Je pense qu'il y avait une volonté de vouloir explorer un nouveau terrain. Et je trouve que le premier est très ambitieux, et je ne retrouve pas cette ambition dans le 2 et le 3.
Mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous remercions d'ailleurs nos partenaires Mintinbox.net, SiteClan.net, StarWarsZoloNet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, StarWarsGeekQuébec et Génération Star Wars et Science Fiction.
Des petits remerciements spéciaux, Sébastien Galano encore pour la mise en liaison, Patrice Giraud pour son temps, Dany, leader suprême pour sa confiance et cher David Dupont pour le montage. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés
et que la force soit avec vous.